On est toujours ravis de vous retrouver, Michel, hein. Michel Favre, pour la 61e chronique Astro. Alors, avant de vous lancer et nous parler d'actu dans un premier temps, redites-nous en quelques mots Constellations et Galaxies, l'association que vous représentez.
Oui, alors une petite association, comme je dis à chaque fois, par le nombre de membres, qui est basée en Dordogne, près de Mussidan, à Saint-Médard-de-Mussidan, pour être précis, et dont la vocation est la diffusion de la connaissance scientifique, et plus particulièrement dans le domaine de l'astronomie. Les principales animations qu'on réalise sont souvent avec notre planétarium itinérant. Il y en a très très peu en Aquitaine, dont le nôtre, ce qui nous amène parfois jusque dans la région bordelaise, voire même Brive ou Angoulême.
Ah, donc la possibilité, la super région, c'est la Nouvelle Aquitaine.
Voilà. Hein. Donc voilà. La possibilité sous un dôme gonflable de voir une représentation artificielle du ciel qui permet d'expliquer un petit peu les constellations, les étoiles, les planètes, tout ça, qui font partie d'ailleurs des programmes scolaires. Donc dans l'année, beaucoup d'interventions scolaires. Et pendant les vacances, même celles de Noël, là, j'ai une demande, ce sont plutôt des centres de loisirs qui nous font venir.
Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis sur ce site, voilà, il est bien détaillé, beaucoup d'informations, des visuels et toutes les chroniques astro. Hein. Je ne me rappelle jamais depuis quand. On a le plaisir de vous retrouver. Je ne sais plus
ça
combien de bougies il faut sur le gâteau.
Ça fait 5 ans.
Voilà, donc Michel, on en redira quelques mots, bien sûr, à la fin de votre chronique. Alors vous allez nous parler d'actu dans un premier temps et des 50 ans d'Apollo. Mais il me semble, on parle de 50 ans, que les premiers pas de l'homme sur la Lune, c'était en juillet.
Oui, mais si la mission lunaire historique est bien Apollo 11 qui a posé deux hommes sur la Lune le 21 juillet 1969, ils n'en font pas pour autant oublier les missions suivantes. Et en ce mois de novembre, on fêtait le 50e anniversaire de la deuxième mission lunaire, Apollo 12. Son équipage était composé de Pete Conrad, le commandant, Alan Bean, qui l'a accompagné sur la surface lunaire, et Richard Gordon, resté en orbite dans la capsule Apollo. Cette mission avait plutôt mal démarré, car lors du lancement le 14 novembre 1969, la fusée Saturne V, à peine décollée, a été frappée par la foudre deux fois, ce qui a fait perdre la puissance électrique et les instruments de vol du module de commande, heureusement rétabli rapidement grâce à une manœuvre assez périlleuse, suggérée par le contrôle au sol, ni plus ni moins qu'une réinitialisation complète du système. La suite du vol vers la Lune se déroulera sans encombre et le module lunaire, ou LEM, s'y est posé le 19 novembre avec une précision remarquable. Le pilotage automatique les amenait à environ 40 mètres de la sonde Surveyor 3, qui était leur objectif, quand Conrad a repris les commandes pour se poser légèrement plus loin afin d'éviter de l'endommager, ne serait-ce que par la poussière soulevée lors de l'alunissage. Au final, ils en seront à 163 mètres. Alors que les astronautes d'Apollo 11 n'ont passé que 2h30 sur la Lune et n'ont parcouru qu'environ 1 km au total, Conrad et Bean passeront plus de 7 heures à la surface lors de deux sorties, pour une durée totale sur la Lune de 1 jour et 7 heures entre l'alunissage du module lunaire et son redécollage, dont une période de sommeil dans des hamacs déployés dans le LEM.
Alors quand il fait à la surface de la Lune, Michel ?
Alors malheureusement, leurs évolutions n'ont guère été suivies par les Terriens en raison d'un problème avec leur caméra de télévision en couleur, qui est tombée en panne après seulement quelques minutes, car Bean l'a pointée en direction du Soleil, ce qui a grillé son capteur. Et de toute façon, comme elle était alimentée par un câble électrique d'une vingtaine de mètres depuis le LEM, elle n'aurait pas pu les suivre dans leur déplacement jusqu'à environ 430 mètres de distance. Parmi les opérations réalisées, il y a bien sûr la collecte d'échantillons de roches lunaires, le déploiement d'un ensemble d'instruments scientifiques baptisé ALSEP, permettant différentes mesures comme la sismicité, l'intensité du vent solaire ou le champ magnétique, et leur retransmission automatique vers la Terre. Pendant leur marche, ils remarquent des reliefs inhabituels qui ressemblent à des mini-volcans d'environ 1 mètre de haut, mais les analyses des échantillons recueillis montreront qu'il s'agit de rochers éjectés lors d'un impact et qui ont été érodés au fil des ans par les micrométéorites frappant continuellement la surface lunaire. Lors du retour, Alan Bean trébuche, et c'est la première chute d'un astronaute sur la Lune, permettant de vérifier que, malgré la rigidité du scaphandre, il parvient heureusement à se relever sans peine. La deuxième sortie est surtout consacrée au trajet jusqu'à la sonde Surveyor 3, posée sur la Lune depuis le 20 avril 1967, donc environ 2 ans et demi auparavant, afin d'inspecter son état. Hein, blanche au départ, elle était couverte de poussière marron, et même d'en découper quelques éléments afin de les rapporter sur Terre pour analyse. Le but étant de voir comment les matériaux sont affectés par un séjour prolongé à la surface lunaire. Le 20 novembre, ils redécollent, rejoignent Gordon en orbite dans la capsule, et le module lunaire devenu inutile va s'écraser à la surface à environ 80 km du sismomètre qu'ils y ont installé, ce qui a permis aux géologues sur Terre de mesurer les vibrations du sol pendant plus d'une heure, ce qui est très différent du comportement de la croûte terrestre. Après un voyage retour sans histoire, ils ont atterri dans le Pacifique le 24 novembre 1969.
Alors, est-ce que justement les échantillons qui ont été rapportés, est-ce qu'ils nous ont appris quelque chose sur
la Lune ? Effectivement, certains échantillons récupérés par la mission Apollo 12 proviennent des éjectats du gros cratère d'impact baptisé Copernic, très facilement observable depuis la Terre avec ses presque 100 km de diamètre. C'est leur datation sur Terre qui a permis d'évaluer l'âge de cet impact remontant à environ 810 millions d'années. Ces datations sont très importantes car de proche en proche, un cratère superposé à un autre étant forcément plus récent, elles permettent de dater les cratères d'impact, donc les sols lunaires, puisque plus il y a de cratères, plus les sols sont anciens. Nous donne une idée assez précise des périodes géologiques successives de formation de la surface lunaire comme nous le connaissons aujourd'hui. Un petit mot à propos d'autres échantillons lunaires rapportés par les missions Apollo, dont j'ai déjà expliqué ici qu'ils étaient encore étudiés de nos jours. Ce 5 novembre, dans un laboratoire du Texas, on a ouvert pour la première fois une carotte de sol lunaire qui avait été scellée juste après sa collecte il y a presque 47 ans. C'était lors de la dernière mission lunaire, Apollo 17, très précisément le 13 décembre 1972, que Gene Cernan, le dernier homme à avoir foulé le sol lunaire, avait enfoncé un tube dans la régolithe pour en retirer une carotte, préservée soigneusement depuis. Il a été décidé de procéder à son examen car une technique d'analyse non destructive a été mise au point. Avec un spectromètre de masse à haute résolution utilisant des rayons X, on peut maintenant produire un modèle en trois dimensions, un peu comme un scanner ou une IRM en médecine. Ces études sont menées dans le cadre du programme Artemis de la NASA, censé permettre le retour d'astronautes sur la Lune dès 2024 et afin de concevoir un outillage plus performant que celui utilisé par la mission Apollo. Il est probable que cet échantillon soit particulièrement intéressant car il a été collecté dans une zone claire du sol près de du bord de la vallée Taurus Littrow, non loin d'une roche ramassée elle aussi et qui s'est révélée la plus vieille jamais ramenée de la Lune avec 4,6 milliards d'années. Malheureusement, Gene Cernan ne saura jamais ce que recelait son carottage car il est décédé en janvier 2017 à l'âge de 82 ans.
Alors dites-nous Michel, les Chinois se préparent pour l'exploration de Mars ?
Oui, le 14 novembre, la Chine a conduit avec succès un test de son atterrisseur martien, harnaché à un dispositif simulant la gravité martienne qui est environ un tiers de celle de la Terre. Il a évolué en vol stationnaire ou en simulant l'évitement d'obstacles lors de sa descente. Cette démonstration s'est faite en présence de représentants étrangers, notamment de la France, de l'Italie et du Brésil, occasion de répéter l'appel à la coopération internationale souhaité par le directeur du Centre chinois pour la science spatiale, Wu Ji. Cet atterrisseur qui comprend un rover d'environ 200 kg, dérivé des deux U2 qui se sont posés sur la Lune, devrait en principe atteindre Mars dans le cadre de la mission Yongxin 1, qui doit être lancé par la fusée lourde Longue Marche 5 en 2020, comme d'autres sondes américaines ou européennes, car c'est toujours au voisinage de l'opposition que s'effectuent les voyages vers Mars pour profiter de la distance réduite avec la Terre dans les 60 millions de kilomètres. Et la prochaine opposition sera le 6 octobre 2020, donc des missions partiront environ 3 mois plus tôt en été pour arriver début 2021. Le rover est prévu pour une mission d'environ 6 mois sur le sol martien et la mission comprend aussi un orbiteur qui restera autour de Mars. Je profite de l'évocation des missions martiennes pour aborder un nouveau mystère de la planète rouge sur lequel se penchent les planétologues, les mesures du taux d'oxygène dans son atmosphère par le rover Curiosity. Se déplaçant à la surface martienne depuis août 2012 dans la région du mont Sharp, à l'intérieur du grand cratère Gale, cet explorateur avait déjà produit des mesures surprenantes en 2018 avec une augmentation de 60% du méthane dans l'atmosphère pendant l'été. Ce cycle saisonnier du méthane martien, bien que pouvant être aussi d'origine purement géologique, suggérait la possibilité d'un cycle biologique avec une activation par le réchauffement estival, donc peut-être la présence de bactéries dans des nappes phréatiques peu profondes. Mais ces émissions ne sont malheureusement pas confirmées par les orbiteurs européens qui analysent l'atmosphère martienne, Mars Express et TGO, c'est Trace Gas Orbiter. Il y avait quand même eu une mesure de ce type en 2013 par un télescope infrarouge basé à Hawaï. L'énigme semble se répéter maintenant avec l'oxygène, très peu présent dans l'atmosphère, environ 0,16%, mais dont la quantité varierait aussi de manière saisonnière selon les mesures de Curiosity. La NASA espère que les deux fluctuations pourraient trouver une explication commune, bien que pour le moment, aucune théorie satisfaisante n'a pu s'imposer au sein de la communauté scientifique.
Alors, en gros raté pour SpaceX et Elon Musk.
Alors, en effet, le milliardaire américain, producteur de véhicules électriques Tesla et promoteur de la conquête spatiale privée avec sa société SpaceX, a connu un revers cuisant ces derniers jours. Alors qu'il avait présenté en grande pompe le 30 septembre dernier le prototype de son vaisseau futuriste Starship, celui-ci a été détruit par une explosion lors d'un test de mise en pression de ses réservoirs le 20 novembre. Pour minimiser cet accident, la société SpaceX explique que ce prototype, numéroté MK1, n'était de toute façon pas destiné à voler et que les premiers lancements sont prévus avec une version plus récente dite MK3. Cependant, lors de son show du 30 septembre, Elon Musk avait bien annoncé un essai en vol du prototype dévoilé avant la fin de l'année, jusqu'à une altitude de 20 km. Comme souvent, il est bien difficile de comprendre les échéances des programmes développés par SpaceX, et il est évident que cet accident ne peut que retarder le premier lancement d'un Starship. Ce vaisseau de 50 mètres de haut, au look futuriste avec son revêtement en acier inoxydable poli, doit être capable d'effectuer un retour en vol plané, se terminant par un atterrissage à la verticale. Dans la configuration finale, il ne devrait être que la partie supérieure d'un lanceur, dont le premier étage baptisé Super Heavy doit le propulser au décollage avant de revenir se poser lui aussi pour être réutilisé. Même si cette fusée pourrait être utilisée pour des vols vers la Station Spatiale Internationale, il semble que SpaceX vise avec elle à s'inscrire dans les prochains programmes spatiaux lunaires, voire martiens à plus long terme. Mais il lui reste encore à faire ses preuves, notamment en termes de fiabilité. Sans vouloir trop remuer le couteau dans la plaie, rappelons quand même que la capsule habitable Crew Dragon, après un vol aller-retour non habité jusqu'à l'ISS du 2 au 8 mars dernier, a été détruite aussi par une explosion pendant un test moteur au sol le 20 avril. Et pour l'anecdote, Elon Musk, qui n'a décidément pas de chance avec la résistance de ses produits, a brisé les vitres de son nouveau modèle de pick-up Tesla lors du show de présentation jeudi dernier. Pour prouver leur solidité, il avait tout simplement fait jeter une boule de pétanque dessus.
Et enfin, la détection de rayonnement gamma très intense, Michel.
Alors, même si c'est un sujet un peu aride et complexe, je souhaite l'aborder pour essayer d'expliquer ce que nos auditeurs ont peut-être entendu dans les médias très récemment à propos de ces records de puissance dans les détections. Tout d'abord, il faut savoir que ces sursauts gamma, ou GRB en abrégé, c'est de l'anglais, Gamma Ray Burst, ne sont pas une histoire toute récente. Ils ont été détectés accidentellement pour la première fois par deux satellites américains Vela, en juillet 1967. Ces satellites disposaient de détecteurs de rayons X et de rayons gamma dans le but de repérer d'éventuelles explosions atomiques atmosphériques dans le cadre du traité sur leur interdiction signé en 1963 suite à la crise de Cuba. Mais l'analyse du signal reçu a montré qu'il venait de l'espace sans en trouver l'origine exacte, comme par exemple une tempête solaire ou l'explosion d'une supernova. Par la suite, d'autres sondes spatiales ont confirmé l'existence de ces phénomènes, mais jusqu'à la fin des années 1980, les données dont disposaient les astronomes étaient réduites. En 1991, la NASA a lancé un satellite spécialement dédié à leur étude, GCRO, pour Compton Gamma Ray Observatory. Concernant ce nom, Arthur Compton était un physicien américain, lauréat du prix Nobel de physique en 1927 pour ses travaux sur la dualité onde-corpuscule de la lumière et qui a donné son nom à l'effet Compton. Cet observatoire a permis notamment de montrer que ces sursauts gamma sont répartis uniformément dans toutes les directions, donc ne proviennent pas de la Voie lactée, mais de sources extragalactiques. Hors service fin 1999 suite à des pannes, il a été détruit lors d'une rentrée atmosphérique contrôlée en juin 2000, mais il a eu depuis quelques successeurs, notamment SWIFT, lancé en 2004, et GLAST, ou Fermi Gamma Ray Space Telescope, en 2008, tous deux de la NASA. Je rappelle que ces rayonnements sont des ondes électromagnétiques, comme la lumière, mais dans des longueurs d'onde très courtes. Tout le monde sait qu'en dehors du spectre de la lumière visible que nos yeux peuvent capter, il existe des ondes plus longues, invisibles à nos yeux, à commencer par les infrarouges de nos télécommandes de téléviseurs, par exemple, les micro-ondes de nos fours, ou encore celles utilisées par les radars, les radios ou les téléphones mobiles. De même, dans les courtes longueurs d'onde, avec d'abord les rayons X, suffisamment énergétiques pour traverser nos organes et produire des radiographies, ou encore plus énergétiques, donc plus pénétrants, les rayons gamma, qui peuvent être produits par des phénomènes de très haute énergie, comme les orages, les réacteurs ou explosions nucléaires, et bien entendu des étoiles dont le cœur est ni plus ni moins qu'un réacteur à fusion nucléaire.
Et c'est des étoiles que proviennent les sursauts gamma détectés dans l'espace alors ?
Oui, mais en raison de leur origine extragalactique, c'est-à-dire provenant de galaxies lointaines autres que la Voie lactée, et leur intensité, on supposait qu'ils ne pouvaient être émis que par des phénomènes catastrophiques, comme la destruction d'une étoile en fin de vie par une énorme explosion, ce qu'on appelle une supernova. Encore fallait-il le prouver. Mais avec le temps, les astronomes ont su mettre au point des techniques permettant de braquer très rapidement d'autres télescopes ou radiotélescopes vers les sources de ces sursauts gamma détectés, afin de les observer dans d'autres longueurs d'onde, seulement quelques secondes après leur apparition. En janvier 1999, une telle observation permet de conclure qu'ils sont émis comme un faisceau étroit qui n'atteint la Terre que quand il est dirigé dans la bonne direction. En octobre 2002, une observation réalisée par plusieurs télescopes simultanément permet de conclure qu'il s'agit bien de l'effondrement d'une étoile géante. Au fil du temps et des observations, on est parvenu à distinguer deux types de sursauts gamma, les plus longs provenant de la destruction d'une étoile massive et les plus courts d'un système binaire comprenant un objet très dense comme une étoile à neutrons ou un trou noir. Le problème, c'est que ces détecteurs spatiaux ne sont pas très sensibles aux rayons gamma de très haute puissance et ne permettent donc pas de mesurer les plus intenses. C'est pourquoi un observatoire spécialement dédié à cette étude a été construit en 2002 en Namibie, le réseau HESS pour High Energy Stereoscopic System, qui comprend 4 télescopes de 12 mètres spécialisés dans la détection des rayons gamma. En 2012, le système est complété par un cinquième télescope encore plus grand de 28 mètres, donnant naissance au nouveau réseau S2. Et les premiers résultats sont publiés à partir de 2014. C'est avec cet observatoire qu'ont été enregistrées les détections records annoncées la semaine dernière suite à des articles publiés dans les revues Nature et The Astrophysical Journal. Mais la première remonte à juillet 2018. Alertés par les télescopes spatiaux Swift et Fermi ayant capté le GRB 180720B, il faut savoir que les sursauts on les numérote et je pense deviner que c'est l'année, le mois, le jour et ensuite une lettre. Les astronomes du HESS, ont braqué leur détecteur sur les sources indiquées et ont pu capter des photons gamma à une énergie de 110 à 440 gigaélectronvolts et pour certains 10 heures après la détection initiale. Ils ont été émis par une explosion extrêmement lointaine à 6 milliards d'années-lumière de la Terre. L'explication d'émission de si haute énergie pourrait être la suivante. L'explosion provoquerait l'émission d'un jet de plasma très rapide qui produirait une puissante onde de choc lors de sa collision avec le milieu interstellaire, agissant comme une sorte d'accélérateur de particules cosmiques. Une autre observation réalisée en janvier 2019 par un autre détecteur gamma au sol, baptisé MAGIC et situé à La Palma, aux Canaries, a mesuré des énergies encore plus fortes, entre 200 et 1000 gigaélectronvolts, le record actuel. Elle a permis de constater que l'on sous-estimait largement l'énergie globale émise dans ces longueurs d'onde, qui serait aussi grande que l'ensemble de toutes les énergies émises dans les longueurs d'onde inférieures. Donc on sous-estimait beaucoup l'énergie de ces explosions. Rappelons que l'électronvolt est une unité d'énergie utilisée notamment dans les accélérateurs de particules. Cela correspond à l'énergie cinétique acquise par un électron accéléré par une différence de potentiel de 1 volt. Le gigaélectronvolt correspond à 1 milliard d'électronvolts. À titre de comparaison, l'énorme LHC, le Large Hadron Collider du CERN, près de Genève, l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit, peut accélérer des protons jusqu'à des énergies de 7000 gigaélectronvolts. Mais il agit sur des quantités de particules infimes par rapport aux gigantesques phénomènes astronomiques dont nous parlons et qui sont de véritables cataclysmes. C'est la mort très violente d'étoiles géantes dans une énorme explosion qui émet en une seconde autant d'énergie que n'en produira notre Soleil tout au long de sa vie, soit 10 milliards d'années environ.
Allez, toujours votre chronique astro, Michel, sur Eau de Radio. Et là, vous allez aborder le thème du mois, la mort des étoiles.
Voilà, en raison de cette actualité sur les sursauts gamma, j'ai pensé utile de revenir sur ce sujet que nous avions abordé déjà en juin 2016 à propos de la vie et de la mort des étoiles. Pour commencer, on peut rapidement expliquer la formation, la naissance des étoiles. Cela commence dans une nébuleuse, c'est-à-dire un grand nuage de gaz, principalement de l'hydrogène, qui est l'élément de loin le plus présent dans l'univers. Un déséquilibre se produit dans ce nuage, peut-être suite à l'explosion d'une supernova voisine, faisant apparaître des régions plus denses, qui font s'effondrer la partie de la nébuleuse située autour d'elle en raison de leur attraction gravitationnelle plus forte. Et tout le monde sait, en utilisant une pompe à vélo par exemple, que quand un gaz se comprime, sa température augmente. L'effondrement de la nébuleuse sur elle-même finit donc par produire en son cœur une zone où la densité et la température sont suffisamment élevées pour que des réactions de fusion de l'hydrogène apparaissent. L'étoile s'allume. Et comme la contraction du nuage de gaz et de poussière autour d'elle a provoqué une accélération de sa rotation, hein, comme les patineurs lorsqu'ils replient leurs bras. Donc son aplatissement, hein, comme le pizzaiolo qui fait tourner sa patte, c'est un disque autour de l'étoile qui contient les restes de la nébuleuse, disque dans lequel pourront apparaître des planètes. Ensuite s'écoule une période plus ou moins longue pendant laquelle l'étoile convertit dans son cœur l'hydrogène en hélium par fusion nucléaire. Puis quand son noyau contient une grande quantité d'hélium, sa fusion vers des éléments encore plus lourds, comme le carbone, l'oxygène ou l'azote, une succession qui peut aller encore plus loin selon la taille de l'étoile. En effet, la masse de l'étoile, hein, par exemple 330 000 fois la masse de la Terre pour le Soleil, qui est une étoile plutôt petite, joue un rôle essentiel dans son évolution, car pendant la plus grande partie de sa vie, il s'établit un équilibre entre la production d'énergie en son cœur, qui aurait tendance à la faire se dilater, et la gravité, dépendant de sa masse, qui aurait tendance à la faire se contracter. Ce qui n'est pas très intuitif, c'est que les plus grosses étoiles, capables de contenir des réactions plus intenses confinées dans leur noyau plus gros sous une pression plus forte, vont durer moins longtemps car elles consomment plus vite leur hydrogène. C'est le cas par exemple des Pléiades, ce groupe d'étoiles qu'on commence à voir à l'est en début de nuit en ce moment. Ce sont des bébés étoiles, si je peux dire, car elles n'ont que 100 millions d'années, soit dans les 1 an si on ramène l'âge de notre Soleil à 45 ans. Malheureusement, leur fonctionnement très énergétique, visible par la couleur bleutée indiquant une forte température de surface, ne leur permettra de vivre que quelques centaines de millions d'années. Par comparaison, notre petit Soleil, si je peux dire, est plus économe dans sa consommation d'hydrogène et vivra centenaire à l'échelle de temps que j'ai prise, avec une durée estimée à 10 milliards d'années au total. Il n'en est donc actuellement que vers la moitié de son existence. Cette longue durée des étoiles moins massives est probablement favorable à l'apparition et l'évolution de la vie à la surface de leur planète, comme pour la Terre.
Alors comment l'étoile finit-elle ? Comment elle finit ?
Alors ça dépend beaucoup de la masse qui joue un rôle majeur à la fin de leur vie, qui peut être plus ou moins violente. Pour les plus petites, comme le Soleil, l'appauvrissement du noyau en hydrogène lorsqu'il fusionnera l'hélium conduit à la migration des réactions de fusion de l'hydrogène vers des couches plus périphériques, provoquant la rupture de l'équilibre entre rayonnement et gravité vers une dilatation des couches extérieures. Et comme un gaz qui se détend se refroidit, l'étoile vire au rouge. Elle est devenue une géante rouge, beaucoup plus grande que notre Soleil actuel, qui, quand il atteindra ce stade, absorbera Mercure et Vénus et consumera la surface de la Terre sous une température infernale, faisant disparaître son atmosphère et ses océans. Pour prendre des exemples parmi les étoiles du ciel d'hiver encore, les géantes rouges Aldébaran, de la constellation du Taureau, et Bételgeuse d'Orion, dont on perçoit des couleurs orangées dans le ciel, ont respectivement des diamètres d'environ 40 fois et 800 fois celui de notre Soleil actuel. Cette dilatation impressionnante se poursuit avec l'éjection des couches extérieures, formant de nouveau une nébuleuse dans l'espace qu'on appelle nébuleuse planétaire, en raison de leur forme plus ou moins circulaire quand on les voit dans des petits télescopes, ce qui les fait un peu ressembler à des planètes, d'où ce nom. Il faut comprendre que la fusion de l'hydrogène tout au long de la vie de l'étoile n'a concerné qu'une petite portion centrale de sa masse, typiquement dans les 10 à 15%, et donc qu'à la fin, il reste encore la plus grande partie de l'hydrogène initial dans la nébuleuse qui se forme, pouvant à terme donner naissance à d'autres étoiles. Mais pendant cette dilatation des couches extérieures, la partie la plus interne connaît une évolution inverse en s'effondrant sous l'effet de la gravité, donc montant vers des hautes températures, se transformant en une étoile très petite, de l'ordre de la taille de la Terre, et très lumineuse, qu'on appelle une naine blanche, et qui mettra des milliards d'années à se refroidir. Même si elles sont très lumineuses, les naines blanches ne sont pas visibles à l'œil nu dans le ciel en raison de leur petite taille. Les premières ont été découvertes avec des télescopes au XIXe siècle. Voilà comment agonise lentement la plupart des étoiles. Pour le Soleil, ça prendra en tout entre 1 et 2 milliards d'années environ.
Voilà, mais si j'ai bien compris, il y a aussi celles qui explosent en supernova.
Voilà, c'est le cas pour les étoiles nettement plus grosses. On parle de 6 à 8 fois notre Soleil, selon les sources, qui ne vivent tranquillement en fusionnant l'hydrogène en hélium que quelques centaines de millions d'années. Leur énorme masse, donc la pression énorme qui règne dans leur noyau, leur permettent de produire et contenir des réactions beaucoup plus énergétiques, fabriquant des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Celui-ci est un stade terminal de l'évolution, car son noyau est le plus stable et sa fusion nécessiterait des conditions de pression et de température qu'aucune étoile ne peut réunir. Avec la production du fer dans le noyau, il survient une sorte d'extinction des réactions de fusion. L'équilibre rayonnement-gravité de l'étoile est rompu, mais cette fois en faveur de la gravité qui fait s'effondrer l'étoile sur elle-même. En percutant le noyau de fer, les couches extérieures produisent une onde de choc très puissante qui les retraverse en les dispersant violemment dans l'espace. C'est l'explosion de la supernova, un des phénomènes les plus énergétiques dans l'univers, brillant pendant quelques minutes comme des milliards d'étoiles, ce qui les rend visibles de très très loin. Par exemple, le 4 juillet 1054, les astronomes chinois ont remarqué une telle étoile, visible en plein jour pendant presque un mois, puis restant l'objet le plus lumineux du ciel nocturne, excepté la Lune bien sûr, pendant plus de 3 mois. Des siècles après, on a trouvé la nébuleuse de gaz produite, qui est connue des astronomes comme le premier objet du catalogue Messier, donc M1 hein, dans le jargon, et dont les photos montrent la structure torturée, témoignant de la violence de l'explosion, sans rapport avec les tranquilles nébuleuses planétaires au format arrondi produites par les petites étoiles. Au cœur de cette nébuleuse a été détecté dans les années 60 un objet étrange, un pulsar, c'est-à-dire une source qui nous envoie très régulièrement un signal radio, environ 7 fois par seconde. Cela correspond au balayage d'un faisceau étroit, un peu comme un phare, situé sur une étoile en rotation très rapide, ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Un peu comme l'effondrement du noyau des petites étoiles en naine blanche, l'onde de choc violente qui fait exploser la supernova produit une contraction très forte de la partie centrale, mais comme elle est bien plus grosse, car l'étoile était beaucoup plus massive, elle dépasse une limite appelée masse de Chandrasekhar, qui est environ 3 fois la masse du Soleil. Cette limite a été déterminée par cet astrophysicien d'origine indienne dans les années 1930 et lui a valu le prix Nobel de physique en 1983. En s'appuyant sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, il a en effet calculé que si une étoile naine dépasse cette masse, la pression interne de ses particules ne parvient plus à compenser sa gravité et elle s'effondre vers un objet encore plus dense, principalement composé de neutrons, d'où le nom d'étoile à neutrons. Pour essayer d'imaginer cette forme de matière extrêmement concentrée, il faut penser à la masse d'environ 3 soleils comprimés dans une sphère n'ayant que 20 à 40 km de diamètre. Un litre de cette matière pèserait dans les 1000 milliards de tonnes.
Et les trous noirs alors ?
Alors dans le cas des supernovas encore plus massives, appelées parfois hypernovas, plus de 10 fois la masse du Soleil, ou plus même selon certaines sources, l'explosion est encore plus violente. Et ce sont celles qui seraient à l'origine des fameux sursauts gamma dont on a parlé tout à l'heure. La densité du résidu central dépasse ce que peut supporter la structure d'une étoile à neutrons et l'effondrement gravitationnel se poursuivrait en donnant naissance à ce qu'on nomme un trou noir. C'est ce qu'on appelle un trou noir stellaire, puisque produit par la mort d'une étoile très massive, à ne pas confondre avec les trous noirs supermassifs qui sont logés au cœur des grandes galaxies, comme la Voie lactée, dont nous avons déjà parlé ici, notamment lorsque la première image en a été publiée en avril dernier. Ceux-ci représentent des masses colossales de plusieurs millions ou milliards de fois le Soleil, alors que les trous noirs stellaires produits par les hypernovas ne sont que de quelques masses solaires, mais concentrés dans un volume très petit. À titre d'illustration, pour transformer le Soleil en trou noir, il faudrait comprimer toute sa masse dans une sphère de seulement 6 km de diamètre, à peu près la moitié de la taille de Paris. Pour en terminer avec les supernovas, on peut signaler la grande importance du rôle qu'elles ont joué pour nous. Comme le dit Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles. Il indique par là que tous les éléments lourds qui composent les molécules de notre corps, comme l'azote ou l'oxygène par exemple, ont été produits par des étoiles. Mais les plus lourds, comme le fer, qui est présent dans l'hémoglobine de nos globules rouges, permettant de transporter dans le sang tout l'oxygène nécessaire au fonctionnement de notre cellule, ce fer, lui, n'a pu être fabriqué que par des supernovas.
Allez, toujours votre chronique astro numéro 61, Michel, et là vous allez nous parler du ciel du mois.
Alors, comme dans toutes les dernières chroniques, je vais résumer cette partie en renvoyant plutôt les auditeurs vers la rubrique qui s'appelle aussi Ciel du mois de la section astronomie de notre site web. Sur le site, il y a plusieurs onglets, dont un onglet astronomie, pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails parce que c'est difficile de montrer des cartes à la radio. Alors maintenant qu'on est à l'heure d'hiver, et avec des journées très raccourcies de l'automne, le soleil se couche très tôt, un peu avant 17h30 en ce moment, et la nuit survient vers 18h30 avec un ciel bien noir vers 19h. À la fin décembre, la journée sera encore plus courte, le jour le plus court de l'année étant le 22 décembre, ou solstice d'hiver, avec moins de 9h entre le lever et le coucher. Mais la différence se fera sentir surtout le matin, avec un lever de soleil plus tardif, alors que les horaires du soir resteront à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Même si certains se plaignent souvent du froid, je rappelle à nos auditeurs que l'hiver est favorable aux observations astronomiques, car on peut commencer beaucoup plus tôt le soir, par exemple vers 19h au lieu d'environ 23h au cœur de l'été, et que du fait d'une atmosphère plus froide, donc moins turbulente, les images sont plus stables. Aussi bien à l'œil nu, on peut remarquer que les étoiles scintillent moins que dans un télescope où les visions sont plus belles. Maintenant que nous sommes au cœur de l'automne, le ciel d'été n'est plus visible que vers l'ouest, le soir, avec la plupart de ses constellations déjà couchées, excepté le triangle de l'été, formé par les trois étoiles les plus brillantes des constellations du Cygne, de la Lyre et de l'Aigle. La plus grande partie du ciel est occupée par les constellations typiques de l'automne, avec Pégase, formant un motif carré plein sud et bien haut dans le ciel, prolongé d'Andromède, dans laquelle on peut déceler la grande galaxie la plus proche de nous, objet le plus lointain perceptible à l'œil nu, et facile à observer aux jumelles. Elles sont accompagnées des poissons, de la baleine, du triangle et du bélier. Vers l'est commence à se lever le ciel d'hiver, avec notamment le cocher et le taureau, avec ses pléiades, groupe de jeunes étoiles massives évoquées tout à l'heure, et Aldébaran, une géante rouge en train d'agoniser, bien repérable à sa couleur orangée. Un peu plus tard, vers 21h, c'est la belle constellation d'Orion, le chasseur, formant comme une silhouette humaine dans le ciel, qui sera levée, accompagnée d'autres constellations typiques de l'hiver, comme les Gémeaux, le Grand Chien, bien plus tard. Fin décembre, en début de nuit, le ciel de l'été aura pratiquement disparu. Les constellations d'automne occuperont la moitié ouest et celles de l'hiver la moitié est. Je rappelle que si on considère souvent décembre un peu comme un mois d'hiver, cette saison ne commence officiellement qu'à la fin du mois et concerne surtout janvier, février et mars. Donc le ciel de l'hiver sera plein sud plutôt vers la mi-février. Côté planète, vers le sud-ouest, on peut actuellement encore apercevoir dans le crépuscule la brillante Jupiter avant son coucher très tôt, à peu près vers 18h30. Elle a été rattrapée par Vénus, qui l'a croisée dimanche dernier, et qui s'écarte de plus en plus du Soleil, ce qui la rend observable de plus en plus longtemps dans le ciel du soir. Actuellement, elle se couche vers 19h, formant un duo avec Jupiter dans le crépuscule, mais à la fin décembre, elle restera dans le ciel jusqu'à vers 20h, alors que Jupiter ne sera plus du tout visible. Légèrement plus à l'est, Saturne est encore visible en ce moment jusque vers 20h, mais dans de mauvaises conditions pour l'observer au télescope, car très basse. À partir de la mi-décembre, elle sera pratiquement masquée dans les lueurs du crépuscule. Le matin, dans les lueurs de l'aube, c'est Mars qu'on peut apercevoir à partir de 5h30 environ, mais il faudra patienter quelques mois pour qu'elle se révèle de plus en plus tôt et de plus en plus brillante, jusqu'à l'opposition d'octobre où elle se lèvera dès le coucher du soleil et sera bien plus proche de la Terre, donc beaucoup plus lumineuse. En ce moment, elle est suivie dans le ciel du matin par Mercure, se levant vers 6h30, et qu'on pourra apercevoir à l'aube jusque vers la mi-décembre environ. Comme chaque mois, il y aura plusieurs conjonctions de la Lune avec les planètes, à commencer par demain, jeudi 28 novembre, où un fin croissant de Lune occultera Jupiter, c'est-à-dire qu'elle passera devant en masquant complètement la planète. Malheureusement, l'occultation de la planète aura lieu vers 10h19, alors que la Lune viendra à peine de se lever, donc très bas sur l'horizon sud-est pour espérer le voir. Mais si le ciel est clair, nous aurons tout le temps d'essayer de repérer aux jumelles le fin croissant, ce qui est assez difficile en plein jour, car Jupiter n'émergera à l'ouest, donc à droite, que vers 11h23, suivi par le chapelet de ses quatre principaux satellites qui apparaîtront un par un environ en 10 minutes. Plus tard dans la soirée, pendant le crépuscule, le même croissant de lune sera entre Jupiter et Vénus, un peu plus proche de celle-ci. Et le lendemain, vendredi 29, elle se rapproche de Saturne, environ la largeur de deux doigts bras tendus. Le dimanche 1er décembre, on pourra observer dans le crépuscule un bel alignement. Jupiter, Vénus, Saturne et croissant de lune, un du plus bas vers le plus haut, permettant de matérialiser dans le ciel le tracé de l'écliptique, trajectoire suivie par les planètes et à peu près la Lune lors de leur déplacement devant la voûte étoilée. Le soir du mercredi 11 décembre, c'est Saturne et Vénus qui seront très proches, environ la largeur d'un doigt bras tendu. Puis le vendredi 27, c'est un fin croissant de Lune qui sera très proche de Saturne avant de se rapprocher le lendemain, samedi 28, de la très brillante Vénus. Il y a d'autres rendez-vous astronomiques en décembre, avec le 26, une éclipse annulaire de Soleil qui ne sera visible qu'en Inde et au sud-est de l'Asie, comme en Malaisie ou en Indonésie, donc en Europe, on ne verra rien. Et bien sûr, le solstice du dimanche 22, jour le plus court de l'année, qui nous fait officiellement rentrer dans la saison froide. Pour nos prochains rendez-vous, il faudra sans doute attendre janvier, car il se trouve que le dernier mercredi du mois de décembre est le 25, le jour de Noël, et je serai en région parisienne chez un de mes fils. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter à tous nos auditeurs de joyeuses fêtes de fin d'année avec un petit peu d'avance.
Voilà, c'est vrai. Déjà, merci Michel pour cette belle chronique. Donc on verra pour la prochaine date. Bien sûr, parce que là, voilà, la fin de l'année, voilà, on espère qu'elle sera heureuse pour nos auditrices et auditeurs, bien sûr. Donc, on se recalera, hein, et puis on donnera la bonne info. Alors, vraiment, Michel, merci, hein, comme chaque mois, pour tout ce travail, hein. Certes, vous êtes féru d'astronomie, un fin connaisseur, mais c'est quand même du travail, hein, tout ça. Donc, chaque fois, c'est important de vous remercier. Alors, on va se quitter en redisant quelques mots, hein. Vous nous parliez du site tout à l'heure. Je vous ai pas coupé, mais vous l'avez pas recité, même si les habitués le connaissent bien, constellationsdesgalaxies.org. Ça nous permet d'en redire deux mots, hein, toutes les chroniques, on peut les retrouver. Hein.
Alors disons, pour ce qui est des activités de l'association, il y a surtout l'onglet planétarium qui permet de voir un peu ce que c'est que ce dispositif, la place que ça prend et les tarifs, car malheureusement on n'est pas suffisamment subventionné,
c'est normal, hein,
pour qu'on puisse proposer ça gratuitement, et les établissements, enfin les structures qui nous accueillent doivent payer. Et surtout, je pense pour nos éditeurs, la partie astronomie, dans lequel on trouve le ciel du mois, avec les cartes, hein, ce qu'on peut pas faire à la radio, et aussi toutes les chroniques, puisque à chaque fois, je prends un enregistrement de la chronique et je la remets en ligne. Donc, on peut retrouver toutes les chroniques depuis la première. Et dans le tableau, hein, j'ai fait un tableau, il y a un petit peu le contenu de la chronique. Donc, on peut choisir, par exemple, s'il y a des thèmes qui intéressent. Parce que
oui,
je pense
en fonction de l'actualité, bien voilà, sûr, si on veut revenir sur un événement particulier.
Voilà, en gros, ce qu'on peut trouver sur notre site web.
Eh bien, en tout cas, Michel, merci beaucoup. Bien, écoutez, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année pour la.